Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à En toute bonne foi. Cette semaine, nous avons la joie d'accueillir un fidèle auditeur de Radio Courtoisie que nous avons déjà eu la joie d'accueillir dans d'autres émissions auparavant. Voilà, vous nous aviez contacté pour nous présenter un manuscrit, enfin non, même un livre édité chez l'Harmattan.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Bonjour Raymond.
Bonjour France.
Donc je parlais de Raymond Magnan. Merci de votre fidélité. Nous avions donc navigué dans l'univers du Grand Maulne. Voilà, vous êtes quand même un auteur prolifique, pas toujours édité, mais prolifique.
Prolifique, c'est on peut dire, oui.
Il y a eu
Nerval, il y a eu entre autres Mauriac, oui.
Mauriac, dont nous parlerons aujourd'hui.
Oui, oui, oui.
Je disais que je pense que dans 100 ans, on découvrira, enfin les autres découvriront vos livres et diront, mais ils étaient fous, ils ne parlaient que de wokisme alors qu'il y avait une magnifique œuvre qui était... Restez.
Que Dieu vous entende, chère France, que Dieu vous entende.
Alors, Raymond, vous êtes originaire de Bordeaux.
Oui.
J'ai l'impression que cette ville ne quitte pas votre cœur.
Exactement.
Même si vous l'avez quittée il y a longtemps.
C'est une ville qui m'habite, tout à fait.
Oui, c'est incroyable. Ouais. Vous avez même donné un titre à l'un de vos chapitres qui montre votre attachement à cette ville, Bordeaux, ce port qui a inventé la mer. Je me suis même demandé si on ne pouvait pas écrire mer, M-E-R-E.
Ça, c'est autre chose. Très judicieux, oui. Vous m'avez très bien lu, d'ailleurs.
Écoutez, c'est toujours une joie pour moi. Je me plonge dans un univers différent. Je reconnais votre style maintenant.
Très bien. Je sais que c'est vous.
Très bien.
Très bien.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de votre manuscrit,
puisque
vous ne l'avez pas encore édité.
Oui.
Donc, j'appelle nos auditeurs éditeurs à réfléchir à.
J'aurai une ouverture.
Oui. C'est toujours très long, les réponses.
Voilà. C'est ça.
Écoutez, aujourd'hui, nous allons donc parler de François Mauriac ou le mystère limpide. Je rappelle que vous aviez rencontré Mauriac, pour ceux qui avaient écouté une émission il y a quelques mois.
Vous étiez
tout jeune, 17 ans de mémoire.
J'avais 17 ans.
Vous écriviez déjà, n'est-ce pas?
Un tout petit peu.
Et j'imagine qu'il vous a donc encouragé à écrire.
Voilà, il m'a demandé quels étaient mes travaux. Voilà, et alors, évidemment, j'en étais à des balbutiements, mais c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Parce qu'il faut s'imaginer Mauriac comme un homme mince, le regard très scrutateur, observateur, et avant de vous parler, il y avait une période de silence.
Il vous scrute.
Ah oui, il vous scrute, avec un regard scrutateur.
Oui.
Et puis alors, ce qui frappe surtout, c'était cette voix blessée qui sourdait comme ça. Et c'est une voix, évidemment, à la suite d'une grave opération qu'il a subie en 1933 pour un nodule.
Oui.
Et donc, ça a caractérisé déjà cette fêlure, cette blessure, quelque chose d'envoûtant aussi. Très envoûtant.
J'ai prévu, mais je vais vous le dire, de vous faire une petite surprise. Tout à l'heure, nous écouterons un petit peu Mauriac. Avec cette voix, c'est vrai qu'en préparant cette émission, je vous l'avais pas dit, mais je vous avais dit que j'avais été surprise par le son de sa voix. Vraiment très abîmé.
Parce qu'ils étaient entretenus avec Jean Amrouche.
Alors, vous allez voir. Mais auparavant, vos œuvres. Alors, quand je vous lis, même les livres dont nous n'avons pas parlé, je sens toujours que vos œuvres sont empreintes d'une blessure, d'une absence, d'une mélancolie.
Tout à fait.
Portées quand même, en fait, qui ne vont pas au désespoir grâce à votre foi.
Voilà.
La lumière est toujours présente néanmoins. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses quand on vous lit ?
Oui, tout à fait, parce que au tout début, pendant ma période jusqu'en une quarantaine d'années, j'étais très pénétré par Rilke, par les poètes un petit peu noirs, vous voyez.
Oui.
Et après, il y a eu une évolution vers la mystique et vers surtout à partir des lectures de Bernanos, et puis les lectures aussi des poètes symbolistes.
D'accord.
Et notamment des poètes mystiques comme Maeterlinck.
Alors, dans votre écrit, là, en l'occurrence, hein, François Mauriac ou le mystère limpide, j'ai trouvé que nous étions plongés dans la poésie qui ne dit pas son nom. Les mots se marient les uns aux autres avec des enchaînements inattendus qui mettent d'autant plus en exergue votre style. Hein. Et nous plongeons dès le premier chapitre dans la vie de Mauriac, qui semble avoir eu une enfance heureuse dans laquelle il aime se perdre.
Voilà.
Peut-être quelle est la source, voire le socle de son inspiration.
Tout à fait, tout à fait. C'est l'enfance. Il a une comment dirais-je, une prédilection pour l'enfance, parce que c'est à partir de là que, si vous voulez, il conçoit le début de son œuvre.
Ah oui.
Il y a deux pôles, à la fois la poésie et de l'autre côté les réminiscences. Alors, il se rapproche en ce sens de Proust. Parce qu'il a ce sens, si vous voulez, de la mémoire. Mais c'est une mémoire, chez lui, c'est une mémoire transfigurée.
Oui.
C'est une sorte de mystique dépassée.
Mm-hmm.
Hein. Et il le dit précisément dans un texte, excusez-moi. Il dit que si l'amour humain... Il dit à propos de la mémoire... Excusez-moi, je reprends ce qu'il a dit. Il y avait cette odeur d'asphalte mouillé qui accompagnait ma joie, mais n'en pouvait être la cause. Il écrit ça dans les mémoires intérieures.
Oui.
Et pour lui, c'est dans l'aventure spirituelle que s'installe peu à peu cette foi comme une consolation du cœur. Se convertir, c'est pour lui être vaincu par la vérité. Mais une vérité qui ne peut s'acquérir qu'en ayant revécu ce temps de l'enfance, qu'il appelle le temps en trop, jusqu'au temps retrouvé, en rejoignant Proust.
Oui.
Voilà. Alors, c'est une forme d'éphémère du réel, ce que j'appelle une forme d'éphémère du réel.
Oui.
Voilà.
Alors, j'ai relevé cette phrase.
Que, oui.
Mauriac a compris que la substance de ses fictions, l'étoffe de ses récits, la rame même de sa conscience n'était rien d'autre que sa mémoire et que toute histoire inventée reflétait la transposition d'une histoire qu'il n'inventait pas, qui demeurait toujours la même puisqu'elle était la sienne propre, inextinguiblement.
Voilà. Il a même écrit « Tout drame inventé » reflète un drame qui ne s'invente pas.
Oui.
Il écrit ça. Et une œuvre sincère ne saurait être plus condamnable qu'un cri.
Ah oui.
Voilà ce qu'il écrit. Vous voyez ?
Alors, votre livre me semble plus philosophique que les précédents.
Ah oui.
Est-ce que je me trompe ?
Oui, non, vous ne trompez pas.
Alors,
j'ai été obligé d'explorer beaucoup plus la spiritualité.
Oui, c'est ça, la spiritualité.
Oui.
Et puis même, vous dites... Nous n'existons que dans la mesure où nous nous souvenons et la réalité n'a de cohérence et de consistance à nos yeux que lorsqu'elle est métamorphosée en conscience.
Voilà, et c'est ça, c'est ça. Il faut que c'est ce qu'il dit dans ce que je crois. Hein.
Oui.
Ce qu'il dit, alors c'est alors que dit-il exactement dans ce que je crois ? C'est avoir la foi, dit-il, c'est croire à ce qu'on ne voit pas, c'est aimer ce qu'on ne sent pas, car ce que l'on sent appartient à la nature, relève de la chair et du sang. Je crois que je suis aimé, tel que j'ai été, tel que je suis, tel que mon propre cœur me voit, me juge et me condamne. Alors les traces de Dieu ne s'effacent pas sur nous, elles sont intérieures. Nous les recouvrons de larmes, mais la vie est plus vaste que le destin. Naître, c'est se donner à ce qui vient, à ce qui se noie, à chercher ce qui nous cherche. Mmh. Voilà.
Alors, sa foi est vive.
Elle est, ah oui.
Alors, j'ai remarqué que sa foi est vraiment la lumière de sa vie. Et vous utilisez, du reste, un vocabulaire particulier pour cela. J'ai relevé les mots « chandelle »,
oui,
« étincelle », « éclairage »,
voilà,
lueur intemporelle, lumière.
Voilà, tout à fait. Vous avez vraiment mis le doigt sur... Oui, parce que ce sont des, des, Ce sont aller vers Dieu, c'est aller jusqu'au bout de l'homme, oui, jusqu'au terme de sa difficile, de sa rebutante vérité. Donc il faut toujours qu'il y ait de. C'est un grand tunnel, mais oui, au bout il y a la lumière. Hein,
oui, c'est voilà. Ça.
Et c'est pour ça que, dit-il, entre le rien et la souffrance, je choisis la souffrance.
Oui.
Et la souffrance est une sorte de lumière aussi. Alors évidemment, il rejoint Simone Veil quand elle dit que la grande faute, c'est ne pas avoir la capacité de se nourrir de lumière.
Oui.
Dit-elle, Simone Veil. Voilà. Mm. Donc c'est chose.
Vous avez évoqué même cette passerelle presque insaisissable entre, oui, le surnaturel et la pesanteur.
Voilà.
Ce pays sans chemin.
Voilà. C'est un pays sans chemin, oui. C'est un pays qui ne mène que vers Dieu.
Oui, c'est ça. Alors, vous consacrez un chapitre à Thérèse d'Esquerou.
Ah oui.
Vous la défendez en disant que son mal n'est pas ce dont on l'accuse, mais dont elle s'accuse. Et que le seul tribunal qu'elle ne récuse pas, c'est le huis clos de sa propre conscience.
Exactement.
Et il me semble que vous êtes très proche de cette femme-là, n'est-ce,
oui,
pas ?
Oui, 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 oui.
Pourquoi ?
Je suis proche d'elle parce que, comment vous expliquer, d'abord, on va dire, comment l'a-t-il rencontré réellement, Thérèse ? Il a rencontré,
oui,
il a rencontré cette jeune femme traquée, à la figure blanche et sans lèvres, il a entrevu ça au temps de son adolescence,
oui,
dans une salle d'assises. Et il regrette, alors évidemment, il a été frappé par ce visage.
Oui.
C'est un visage qui respire l'amour,
oui,
et la faute en même temps.
Oui.
Partagé, vous voyez. Alors évidemment, c'est vraiment le symbole même de ce qu'il écrit et de ce,
oui,
qu'il dit. Alors évidemment, il a dit « J'aurais voulu, Thérèse, que la douleur te livre à Dieu. Mais il ne reniera jamais, Mauriac ne reniera jamais cette parenté qui, par les obscures voies du péché et de la grâce, l'enchaîne à cette figure. Son mal n'est pas ce dont on l'accuse, mais c'est ce dont elle s'accuse.
Oui.
Voilà. Et le seul tribunal qu'elle ne récuse pas, c'est le huis clos de sa conscience.
Oui, sa propre
conscience. C'est dans le huis clos de sa conscience qu'elle va vivre cette grande période de désarroi à Argelouze.
Oui.
Avec ses pains blessés, avec cette pluie, où elle est au bord de l'abîme. Elle se demande, tout le passé lui revient. Pourquoi ? Alors pourquoi a-t-elle fait ça ? C'est une sorte de vertige. C'est une. Alors il faut s'imaginer le contexte. Il s'agissait d'un plein été. Il y avait un incendie. C'était déclaré et son mari prenait de la liqueur de fouleur. Donc elle a ses gouttes. À un moment donné, elle dit, elle a mis trop de gouttes, mais,
oui,
elle s'est dit, bon, pourquoi pas ce vertige-là, vous voyez,
oui.
Et plus elle en mettait, et plus il semblait regaillardi, quoi.
Oui.
Et alors elle a plongé dans ça. Une sorte de mal dont elle...
Elle a glissé.
Oui, 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 c'est ça. Dont elle a vécu, comment vous expliquez ça, nos actes sont les ombres de nos pensées. Et un écrivain catholique avance sur une crête étroite. Ne pas scandaliser, mais ne pas mentir. Mauriac ne veut pas mentir. Il ne veut pas exorciser les convoitises de la chair, et ni les crimes que l'on... même si ça va jusqu'au crime. Et c'est là on peut rejoindre le parallèle avec Bernanos.
Oui. Oui.
Voilà.
Alors, vous vous sentez proche de Mauriac, n'est-ce pas ?
Oui, ah, mais certes, oui.
Alors, pardon, mais vous êtes un peu tourmenté comme lui, me semble-t-il.
Oui.
Vous vous accrochez à la foi comme lui.
Oui.
Son bonheur se trouvait dans l'écriture comme vous.
Oui.
Je vais reprendre certains de ses propos et je pense que vous allez me dire « Oui, oui, c'est moi !» Je n'ai jamais été un homme heureux. Mais il a été donné d'espérer, il m'a été donné d'espérer. Le bonheur n'est pas une acquisition, c'est une disposition du cœur.
Voilà, c'est ça, oui. Nous sommes, enfin, suis-je, est-ce que je ressemble aux personnages de Mauriacien qui sont des exilés de l'absolu ?
Oui.
Voilà. On découvre en soi une présence d'une autre réalité qui tout à la fois nous dévaste et nous révèle à nous-mêmes. Mais en même temps, quand elle nous relève à nous-mêmes, on a l'impression d'une sorte de fatalité dominée par la lucidité. Il s'agit de mettre à jour, comme dans les romans de Dostoïevski d'ailleurs, et de Bernanos, la blessure par quoi crie une âme dans la profondeur d'un être. Et l'être est insaisissable dans la mesure où se fait jour une vérité qu'il appelle et redoute. Il faut que Dieu soit quelqu'un que l'on rencontre. Telle apparaît l'espérance qui rattache Mauriac à ce jansénisme pascalien, foudroyé par la nuit de feu. Pascal rencontre Dieu, Dieu l'habite, mais dans une fulgurance, et après il en est presque abandonné. Voilà. Alors c'est pour ça que se pose le problème du mal.
Alors justement, le mal. Vous abordez sa vision du mal inévitable selon lui. Alors nous allons écouter à présent quelque chose. Vous allez commenter après, s'il vous plaît.
Très bien, merci.
D'abord, il n'y a pas de catholicisme de Mauriac. Il y a un pauvre catholique que je suis qui s'est exprimé comme il a pu dans des romans. Mais enfin, aucune doctrine ne peut se prévaloir de mon nom. Mais surtout, ce qui fait que j'ai toujours protesté contre cette critique, c'est qu'on me reproche d'être le romancier d'un univers où le mal existe. Je trouve stupéfiant ces catholiques scandalisés parce que on leur montre un monde où la nature a été blessée par le péché originel et qui a eu besoin d'un rédempteur. J'avoue que ce sont d'étranges catholiques qui font semblant ou qui s'irritent quand on leur montre que le mal existe et que le mal n'existe pas seulement chez ce que j'appellerais les méchants officiels, mais que le mal se trouve en chacun de nous et que le pire des maux, je dis le pire, puisque c'est celui que le Seigneur a dénoncé, il faut bien le dire, avec une espèce de fureur, c'est le pharisaïsme. Et qu'est-ce que le pharisaïsme? Sinon, cette persuasion. Où sont les catholiques dont vous me parlez? Que chez eux et parmi eux et pour eux, il n'y a pas le mal. Que le mal, ce sont les autres.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, il fallait tendre l'oreille, puisque nous le disions tout à l'heure, oui. Mauriac avait été opéré de la gorge.
C'est très impressionnant d'entendre cette voix.
Ça m'a vraiment... Voilà, c'est un petit cadeau.
Merci, France, ça m'a vraiment touché. Oui.
Alors, vous avez relevé dans votre livre le problème du mal, en recopiant le bloc-notes du 13 février 1968. Oui. Je complète, le problème du mal innommable est partout triomphant. Il n'existe pas pour le chrétien une pierre d'achoppement pire que celle-là, mais elle est telle que pour ne pas perdre cœur en butant contre, il ne lui reste qu'à la survoler dans un effort délibéré de volonté. C'est cela la foi, c'est cela croire.
Voilà, tout à fait. Les réprouvés pour Mauriac sont ceux qui ont perdu l'amour, car ils ont perdu la soif de vie, d'un appel de la vie. Et Bernanos est dans le péril de la traversée mystique, et Mauriac, il tend vers les égarés de l'amour, emporté par la faiblesse vers le fleuve de feu des passions. Et c'est en cela qu'ils sont cette chose qui était perdue et que Dieu a souhaité de sauver. Alors, il exprime très bien dans plusieurs de ses romans, particulièrement dans Ce qui était perdu.
Oui.
Et dans Le baiser aux lépreux, parce qu'il faut dire que Jean Pelouer, dans Le baiser aux lépreux, étreint un tuberculeux pour attraper la maladie et il se donne entièrement à lui jusqu'à la mort. Mmh. Donc c'est une sorte de rachat par le...
La souffrance.
Oui. Et aussi la charité. Charité qui est un mot dont parle Peggy et qui est...
dont nous parlions la semaine dernière avec Martin de Sauce.
Peggy va vers Dieu et dans une grande charité aussi, hein, dans une grande ouverture vers l'autre. Oui, voilà.
Alors, Mauriac a placé sa foi dans une démarche littéraire, hein, comme Bernanos, oui. Claudel oui. Ou Julien Green.
Oui, oui.
Il laisse toujours voir le combat intérieur de ces personnages, comme nous le disions tout à l'heure pour Thérèse d'Esquerou, sans jugement de l'auteur.
Oui.
Qui vraiment finement hein, laisse au lecteur la subtilité de le ressentir. Dans ses écrits, il scrute l'âme humaine. Peut-on dire de lui qu'il est un psychologue chrétien ?
Voilà, j'ai beaucoup apprécié votre expression, parce qu'elle est très juste.
Ouais.
C'est un psychologue très chrétien, oui. Et même, il n'est pas un romancier qui écrit, un romancier catholique qui écrit des romans.
Oui.
C'est plutôt un catholique qui écrit des romans.
Ah oui.
Voilà. Hein.
Donc, on en manque actuellement.
Ah bah, on en manque beaucoup. Oui. Donc voilà, mais il faut toujours qu'il y ait une lueur furtive tremble au bout de la nuit, qu'un trait d'azur déchire le ciel d'orage, qu'une présence apaisante surgisse au bord des chemins de douleur, et le lecteur de Mauriac donne un sens plus juste et plus plein à la résurrection de Pâques, un croyant peut-être a-t-il donné à celui qui entre dans une église une nostalgie qui déjà est une naissance, un tressaillement de charité, d'amour. Les deux bras crucifiés du Christ nous appellent et montrent le ciel.
Voilà. Raymond, j'ai encore une question.
Mais
vous
oui,
nommez-vous France. Mauriac, poète de l'incarnation.
Oui.
Pourquoi ?
Oui. Oui, poète de l'incarnation, c'est très bien, oui. Parce que il a beaucoup attaché
oui.
de l'importance
oui.
à l'être, mais à l'être dans sa chair et dans son sang, dans sa souffrance même. Hein. Notre angoisse est la condition même de notre paix. Notre défaite est la condition même de notre victoire. Seul ce que l'on accepte change de sens. Alors, il est un poète de l'incarnation, parce qu'il est déjà poète lui-même, mais c'est une prière par l'écriture, et de toute la moins pure, mais l'une des dernières possibles, dans un monde qui est passé d'un Dieu caché à un Dieu absent. Nous sommes faits en forme de croix, et frôlons ce refus, que Simone Veil considérait comme l'unique faute, ne pas avoir la capacité de se nourrir de lumière. Alors, Sainte Thérèse, parlant de l'amour,
oui.
dit « Ô phare lumineux de l'amour, je sais comment arriver jusqu'à toi. J'ai trouvé le secret de m'approprier ta flamme. » Sainte Thérèse.
Oui.
Voilà. Donc, sauf l'espoir, tout ce que l'on possède limite. Hein. Possède-t-on l'univers si l'on ne possède pas la lumière de ses matins, le vol de l'oiseau, le vent dans les feuilles, la murmurante haleine de la vie, les visages qui glissent et s'effacent ? Alors Dieu peut venir à nous du fond de ce désert et les eaux vives de la foi pourront ruisseler dans le lit desséché de nos désirs.
C'est magnifique. Oui.
Voilà.
Alors, vous dites par ailleurs, donc pour faire suite à ce poète de l'incarnation,
oui.
vous dites que l'incarnation est déjà la crucifixion.
Oui, voilà. C'est en cela que je dis que pourquoi une crucifixion ? Tout à fait parce que c'est, si vous voulez, cette souffrance, quand elle va jusqu'à la blessure, jusqu'à la souffrance même, elle ne peut être qu'une rédemption.
Mmh. Oui.
Une rédemption qui va jusqu'à une extrême souffrance. Hein.
Mmh.
Alors, on peut penser à Thérèse.
Oui.
Dieu sait si elle l'a évoqué. Hein.
Oui.
Et si elle l'a offert toujours au Christ. Et pourquoi ne pas évoquer Bernadette ?
Oui.
Hein ? Bernadette qui avec son aquero, a toujours, toujours, et d'ailleurs la Vierge lui a dit, je vous ne me promets pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre, et qui a toujours espéré, alors surtout à Nevers, où elle a tant souffert, et où elle a une sorte de rachat, oui.
Oui. Alors, voilà. Pour terminer, puisque nous arrivons à la fin de l'émission, j'aimerais quand même, vous me connaissez, je suis une irréductible optimiste, alors évidemment dans l'espérance, je pense que même si vous êtes un irréductible mélancolique, hein, comme de nombreux poètes, le spleen cher à Baudelaire.
Oui, la plaie et le couteau.
Voilà, il y a quand même un sentiment lumineux qu'on peut tirer de votre livre. Moi, j'ai retenu la joie d'être accueilli au ciel.
Oui.
La paix acquise avec le temps.
Oui.
Est-ce qu'on peut terminer là-dessus ?
Un apaisement, oui.
Oui.
Un apaisement, oui. Une sorte de... une prière par l'écriture, oui.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Eh bien, écoutez, cher Raymond, je rappelle que nous évoquions aujourd'hui votre manuscrit qui n'attend que son éditeur et parlions de ce grand homme François Mauriac ou le mystère limpide. Mais l'autre grand homme, pour moi, Raymond, c'est vous. Je vous remercie parce que vous lire est un vrai bonheur.
Merci
de m'envoyer régulièrement vos livres. Je suis très touchée.
Je le ferai toujours.
À ce rythme-là, je vais devenir une spécialiste de Raymond Magnan.
je vous remercie, chère France, dans votre si belle émission, de toujours
Mais écoutez, si l'émission fut si belle aujourd'hui, c'est grâce à vous. Merci beaucoup, j'ai vraiment eu l'impression
de... Vous donnez une vision belle de la spiritualité, sur les chemins de la spiritualité et de l'indicible.
Merci beaucoup, Raymond. Voilà. Chers auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine avec Patrick Sbalquiro pour parler de ce grand architecte que fut Gaudi. Bonne semaine.